Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous bénissons toute l'Assemblée réunie ici, tous ceux qui sont venus pour cette grande semaine donc, de retraite spirituelle. Et nous voulons ce soir partager avec vous ce thème, comme notre bien-aimée sœur vient de le dire, réveillons le premier amour. Réveillons le premier amour, pourquoi ? La Bible dit dans Apocalypse 2, verset 4, je vais aller directement, Apocalypse 2, verset 4, la Bible nous parle de cette église. Mais il y a une église en particulier, l'église d'Éphèse, qui avait grandi, une église qui était prospère spirituellement, une église qui avait une croissance merveilleuse dans les quand Paul était là, mais Dieu dit à Jean d'écrire à cette église, et voici ce qu'il a remarqué. Dans donc Apocalypse 2, et au verset 2, et au verset 4, du moins ça. Je peux prendre le verset 2 pour mieux comprendre. Mais je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ça, c'est le verset 2. Dieu dit, je connais tes œuvres. L'église d'Éphèse avait bien travaillé. L'église d'Éphèse avait la persévérance. L'église d'Éphèse ne pouvait pas supporter les méchants. L'église d'Éphèse avait éprouvé des difficultés. Donc, Dieu dit, je suis au courant de tout cela. Et au verset 4, il dit maintenant, mais ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. Il parle de relation. Il ne parle plus de l'œuvre de Dieu. Il ne parle plus de ce que nous faisons pour Dieu. Dieu met l'accent sur notre relation avec lui. Ce que j'ai contre toi. Moi, personnellement, moi, le Dieu personnel, j'ai quelque chose contre toi. Et de quoi il s'agit? Et la Bible nous dit ici, c'est que tu as abandonné volontairement, donc, ton premier amour. Tu l'as abandonné. Et c'est pourquoi tes œuvres, c'est pourquoi ton travail, c'est pourquoi ta persévérance, ces choses-là ne sont plus placées dans un paquet d'amour. Et ça ne fonctionne pas. Et le contre-coup de cela, c'est qu'à l'intérieur, ton homme intérieur est rempli d'angoisse, est rempli de peur, est rempli de culpabilité et autre chose. Tu as abandonné ton premier amour. Et ce premier amour, si nous maintenant le voyons dans les trois dimensions, premier amour envers Dieu d'abord, premier amour dans le foyer, dans le mariage, et premier amour dans l'église locale. Pourquoi Dieu insiste-t-il dans l'église d'Éphèse sur le premier amour, l'amour? Dieu insiste, dans Romains 5, verset 5 et le verset 9, et verset 8. Romains 5, verset 5 d'abord, la Bible dit dans ce passage-là que Dieu, par le Saint-Esprit, a répandu son amour dans nos cœurs. Et au verset 8, l'apôtre nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, je veux nous amener pas à pas pour voir ce soir qu'est-ce qui fait souvent les chrétiens n'ont pas de délivrance rapidement, n'ont pas de guérison. Alors que nous-mêmes, nous devrons être les premiers en bonne santé, nous devons être les premiers heureux dans nos foyers et dans l'église locale. Dieu nous dit que l'atmosphère du ciel, il n'y a qu'une seule chose, l'amour. Tout le monde respire l'amour, tout le monde vit dans l'amour, les paroles sont d'amour, les regards sont d'amour, les touchés sont d'amour, les relations sont des relations d'amour. Et c'est cet amour, la nature divine, que Dieu a pensé après que Satan ait rempli la terre de sa propre nature, qu'on appelle la haine, qu'on appelle la division, Satan a amené cette nature et a rempli l'atmosphère de la terre avec cette nature-là satanique. Dieu revient sur la terre et la première chose qu'il manifeste, c'est son amour. Tant que l'atmosphère de la terre reste embuée par la nature satanique, les relations verticales entre Dieu et l'homme et les relations horizontales entre les hommes, ces relations seront difficiles. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, l'amour est très important, car l'amour, c'est la nature de Dieu. Quand on parle d'amour dans la Bible, il faut bien voir de quel amour il s'agit. Quand la Bible dit que Dieu a répandu son amour dans notre esprit, il ne parle pas de nos sentiments, car l'amour philéo est dans notre âme. L'amour fraternel se manifeste dans notre âme. Mais l'amour fraternel ne peut pas se manifester si d'abord je n'ai pas reçu l'amour agapao dans mon esprit. Et c'est pourquoi la sœur dit qu'il était difficile de pardonner. Parce qu'elle n'avait pas l'amour agapao, elle avait abandonné l'amour agapao et alors ça ne pouvait pas se manifester par l'amour philéo envers les autres. Là où il n'y a pas d'amour agapao dans mon esprit, mon âme est vide de l'amour philéo pour les frères. Mon âme est vide de l'amour horizontal entre mes frères et mes sœurs. Et en ce moment-là, je commence à sentir des choses en moi et qui empêchent ma délivrance, qui empêchent ma guérison, qui empêchent la joie de Dieu de se manifester dans mon cœur. Et donc, ça c'est le premier élément, l'amour envers Dieu. Et Jésus est venu comme l'amour incarné. Jésus n'est pas venu comme sauveur d'abord, il est venu comme l'amour de Dieu incarné. Et il est venu nous montrer comment l'amour de Dieu se manifeste sur la terre au milieu des hommes. Et pour cela, sa vie a été caractérisée par deux choses. Premièrement, agneau de Dieu. Deuxièmement, le lion. Il avait ces deux natures-là. Il semble être contradictoire, mais qui pourtant se complète de façon exceptionnelle et de façon glorieuse. L'amour ne peut se manifester que lorsque d'abord Jésus s'est sacrifié comme agneau de Dieu. Parce que l'agneau bêle et le lion rugit. Cela veut dire quoi exactement? Pourquoi Jésus était-il l'agneau et en même temps le lion? Parce qu'il veut que chacun d'entre nous, nous soyons agneaux avant d'être des lions. Il veut que les maris, les papas, soient d'abord des papas agneaux avant d'être des maris, des papas lions. Car l'agneau se livre. Et le lion rugit, protège et suit sa proie. Alors, si je suis un mari ou un papa lion, avant d'être un papa agneau, je commence à rugir sur qui? Sur ma femme et mes enfants. Et ma nature d'agneau ne se verra jamais. Personne ne découvrira ma nature d'agneau. Et c'est pourquoi Jésus d'abord a montré la caractéristique principale de ce qu'est Dieu par l'amour. Il s'est manifesté comme l'agneau de Dieu qui a offert sa vie. Et maintenant, il s'est transformé en lion pour rugir contre les ennemis de sa famille. Parce que nous sommes l'époux de Christ. En tant qu'époux, il était d'abord agneau, il s'est livré pour nous. C'est pourquoi la Bible dit aux maris que les maris aiment d'abord leur femme. Tout mari doit aimer d'abord sa femme et ensuite devient un lion pour sa femme, pour protéger sa femme. Mais si nous sommes des lions avant d'être des agneaux, nous détruisons nos relations. Nous créons la peur, nous créons l'angoisse, nous créons des mauvaises relations entre nous, frères. Et c'est ce qui prévaut dans l'Église universelle aujourd'hui. Nous sommes plus lions qu'agneaux. Nous rugissons beaucoup plus que nous nous laissons dépouiller, que nous nous laissons sacrifier. Et c'est pourquoi l'amour qui est contenu dans notre esprit, cet amour-là n'arrive pas à passer dans notre âme parce que cet amour est limité. Cet amour qui est dans notre âme ne peut pas satisfaire, ne peut pas dominer les persécutions, ne peut pas dominer les rejets, ne peut pas dominer les manques, les mauvaises relations, les blessures. Et c'est pourquoi il est difficile de pardonner. Et la plupart des maladies des chrétiens, c'est lié surtout à ce qui prévaut dans notre âme. Donc, c'est pourquoi Dieu nous invite ce soir à réveiller le premier amour que nous avons simplement enfoui au plus profond de nous et que nous avons laissé les œuvres, comme les Éphésiens, les œuvres que nous faisons pour Dieu, le travail que nous faisons pour Dieu, les choses que nous faisons pour Dieu, prendre la première place. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans la dépression, dans la déprime, alors que ce n'est pas normal. Là où il y a l'amour, la paix, la joie, il ne peut pas avoir de dépression. Jamais. Il ne peut pas avoir ni de dépression, ni rien. Pourquoi? Nous devons comprendre la parole de Dieu, frère. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, alors nous avons des difficultés. Nous croyons, nous allons faire des efforts pour produire ce que Dieu nous a déjà donné. Je vous ai dit, le naturel et le spirituel vont de pair. Dans le sol africain, par exemple, Dieu a enfoui, avant que le premier Africain ne vienne, il a enfoui tous les trésors, toutes les richesses. Mais pourquoi, sur le plan économique, l'Afrique est pauvre? Non pas par manque de ressources, c'est le continent dont le sous-sol est le plus riche. Mais pourquoi elle est pauvre? Parce qu'on n'arrive pas à l'exploiter. C'est la même chose avec les chrétiens. Vous êtes des hommes remplis de richesses spirituelles. Mais pourquoi vous êtes pauvres spirituellement? Pourquoi vous n'arrivez pas à manifester les richesses? Parce que vous n'avez pas les moyens pour exploiter ce qui est là. Vous ne savez pas comment exploiter. Le comment pour faire passer les trésors qui sont enfouis en trésors exposés, c'est ça le difficile. Il y a l'or dans le sous-sol africain. Il y a le pétrole en abondant. Il y a tous les métaux. Mais pourquoi on n'arrive pas à l'extraire? Parce qu'on doit l'extraire d'une manière spéciale. Et si on ne comprend pas ça, dès que nous sommes nés de nouveau, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Il a répandu son amour dans nos cœurs. Mais je peux rester là, prisonnier de cet amour-là, parce que mon âme n'est pas arrivée à se connecter à mon esprit pour permettre que l'amour de Dieu qui est en moi puisse être exploité au profit de ma famille, de ma femme, de mes enfants et de mon environnement. Je suis un prisonnier. C'est la même chose sur le plan naturel, sur le plan spirituel. Et lorsque nous regardons ces choses, nous commençons à découvrir, mais Dieu a tout fait pour nous. Tout est accompli, tout est net. Quand j'ai commencé à réétudier la Bible, en regardant pourquoi tant de chrétiens souffrent-ils, pourquoi ils passent des années à souffrir, Dieu m'a commencé à m'ouvrir les Écritures. Il a commencé à révéler la parole de Dieu. Il a commencé à me dire, ce n'est pas de ma faute, moi j'ai tout mis en vous. Tout est là. Et j'ai mis le Saint-Esprit en vous. Mais pourquoi ça ne marche pas? Dieu ne va plus descendre une seconde fois. Il n'y a plus une seconde crucifixion. Il n'y a plus un second baptême du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est descendu. Depuis qu'il est descendu, il n'est plus remonté au ciel. Il est sur la terre. Il est en nous et vous et moi. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que la première chose que Dieu voulait que nous puissions utiliser, c'est l'amour. Il nous a donné sa nature d'amour. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean 4, il disait, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est amour. Nous devons être dans ce monde de l'amour. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Et souvent ce thème n'a pas été beaucoup apprécié par l'Église parce qu'on pense que si on parle d'amour, et les gens seront faibles. On pense que si on parle d'amour, les gens vont tomber dans le péché. Non? Sans amour, sans la compréhension de l'amour, la prédication sur le péché n'a jamais transformé quelqu'un. Jamais. La prédication sur dénoncer le péché dans l'Église n'a jamais transformé ni un enfant, ni une femme, ni personne. La preuve est que la loi est là devant vous. Dieu prêchait la loi par Moïse. Ça n'a sauvé personne, ça n'a transformé personne. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'amour. Par Christ. La loi est plus parfaite que toutes les prédications des églises. La loi de Moïse est la loi la plus parfaite concernant la sainteté, plus que tout pasteur peut prêcher sur la terre. Moïse a été le prédicateur de la sainteté. Regardez comment il a échoué lamentablement. Regardez comment ces hommes qui sont sortis de l'Égypte, 2 millions, sans compter les femmes et les hommes, sont sortis de l'Égypte, sans Pharaon derrière eux. Pharaon, son armée a été détruite. Sans personne derrière eux. Ils n'ont pas pu rentrer en Canaan, la terre promise. Les 2 millions n'ont pas pu entrer en Canaan. Sans les démons, sans Pharaon, sans aucune armée. Ils sont morts dans le désert. À cause de quoi? À cause des murmures, à cause du cœur qui n'a pas été transformé. Il n'y avait personne derrière eux. Personne. Rien. Alors, si la loi, la Bible dit dans Hébreux 8 et 9, que la loi est impuissante et inutile. Alors, si je commence à prêcher rien que la loi aux gens, alors que la loi ne peut pas transformer quelqu'un, elle est spirituelle, elle est bonne, mais l'amour de Dieu, l'amour manifesté est une puissance. L'amour transporte les montagnes. Parce que si la foi transporte les montagnes sans amour, la foi est vaine. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand j'ai commencé à comprendre le thème de l'amour biblique, ma vie a été changée. Je suis rentré dans le repos. Je suis rentré dans une restauration. J'ai commencé à comprendre ce qui me manquait, c'était le manque de révélation de l'amour de Dieu, comme Dieu le veut pour chacun d'entre nous. Alors, quand nous regardons Jésus-Christ, regardons-le dans Éphésiens 5, ce qu'il nous dit dans le foyer, dans la famille par exemple, l'endroit, c'est la première église, le foyer. Si l'amour n'est pas manifesté, pratiqué dans le foyer, alors beaucoup de choses commencent à se dérégler dans le foyer. Dans Éphésiens 5, Jésus prend cet exemple-là, verset 25 en particulier. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Nous pouvons lire. Il est écrit ici, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Marie, comme Christ. Christ est l'époux de l'Église. Comment notre époux nous a aimés? Notre époux nous a aimés en se livrant lui-même. C'est ça. Et il dit maintenant, le mari naturel, si le mari spirituel, si le mari céleste, voici comment il a aimé l'épouse, l'église que nous sommes. Il dit, vous devez faire la même chose, aimer votre épouse naturelle comme Christ. Vous voyez bien, comme Christ a aimé l'église. Alors, nous devons nous asseoir pour voir comment Christ a-t-il aimé l'église. Regarde les souffrances qu'il a endurées pour l'église. Regardez ce qu'il a payé comme prix pour l'église. Alors, dans le foyer, quand le mari, le père, exerce cet amour-là, manifeste cet amour-là envers son épouse et ses enfants, bien-aimés frères et sœurs, la soumission devient facile. La soumission devient facile. Parce la soumission est un autre genre d'amour. La soumission, c'est un complément de l'amour que le mari envoie et la femme complète cet amour-là. Et alors, ça devient facile. Comme agneau, nous devons aimer ainsi. Donc, nos épouses, nous devons aimer. Vous savez, c'est un message qui ne fait pas plaisir à la chair. C'est un message qui ne plaît pas à la chair, aux cinq sens. Pendant longtemps, j'ai prêché des messages qui faisaient du bien et qui avaient une puissance dans l'Afrique francophone et une bonne partie de l'Afrique centrale, de l'autre côté, on m'appelait l'homme de l'onction. Pas jamais manifester l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Je voyais, et jusqu'à présent, cette onction n'a pas disparu, elle est là. L'onction de guérison, de délivrance, elle est là, elle se manifeste. Mais j'ai constaté quelque chose. Après ces belles guérisons, ces belles délivrances-là, j'ai constaté que les gens n'arrivaient pas à se pardonner, à s'aimer entre eux. Mais j'ai dit, mais Dieu m'a dit, l'onction par elle-même ne peut pas produire des bonnes relations entre les gens. C'est mon amour. Ne confonds pas l'onction, l'amour, la foi, la sagesse et ces choses-là. Si tu les confonds, ta vie ne fonctionnera pas et l'église ne fonctionnera pas. Pour que l'église puisse être une église harmonieuse, il faut l'amour. D'abord, toi, le pasteur, tu dois manifester mon amour envers les chrétiens. Et si tu manifestes mon amour comme moi je l'ai manifesté, alors tu verras la réponse de l'église envers toi, ce serait une église qui va renvoyer dans l'ascenseur. Parce qu'ils vont commencer à discerner qu'il y a de l'amour suffisamment en toi pour que l'église accepte, discerne en toi donc un instrument d'amour. Alors, j'ai commencé moi-même à pratiquer cet amour-là, qui n'est pas un sentiment. J'ai commencé à pratiquer cet amour. Cet amour, en premier lieu, m'a guéri moi-même, m'a délivré moi-même de mes rejets, de mes refus de pardonner, de mes amertumes, de mes rancunes. Cet amour a fait un travail extraordinaire dans mon âme. Mais j'étais étonné, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai perdu 15 années à ne rien faire. Il m'a dit, oui. Tu avais toutes les richesses, la richesse de Dieu en toi, mais tu n'as pas su l'exploiter. Et dis à mon peuple que cette richesse est pour chacun d'entre nous. Alors quand j'ai commencé à comprendre cela, j'ai commencé à regarder ce que Dieu voulait m'enseigner. Et j'ai commencé à pratiquer cet amour-là dans ma propre vie, dans ma propre famille. Parce que j'ai vu que cet amour-là faisait plus d'exploits rapidement que forcer les gens à faire ceci, forcer les enfants à obéir à Dieu. J'ai vu que l'amour était le moyen le plus et qui pouvait donner un résultat plus rapide que tout ce que je faisais. Alors, bien-aimés frères et sœurs, et j'ai commencé à comprendre que cet amour-là, si je le manifestais, je verrais un effet sur les membres de ma famille. Mais ce n'est pas fini. Cet amour-là, ce premier amour-là, pour le manifester, pour le montrer, dans le couple, par exemple, dans la famille, entre le mari et la femme, il y a une autre loi, après la loi de l'amour, du premier amour, il y a une autre loi que les maris et les femmes doivent appliquer, qu'on appelle la loi de l'honneur, la loi d'honorer. 1 Pierre 3, on va voir 1 Pierre 3, verset 7. Dans ce passage de 1 Pierre 3, verset 7, 1 Pierre 3 et au verset 7, la parole de Dieu nous dit, Marie, vous voyez encore, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah, la loi de l'amour commence par l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu dit au mari, Dieu dit à l'homme, aux jeunes gens qui doivent se marier, maintenant honorez vos femmes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il ne vienne pas faire obstacle à vos prières. Si déjà je ne manifeste pas l'amour envers ma femme, mes enfants, et deuxièmement, si je n'honore pas ma femme, Dieu me dit, tes prières ne seront jamais exaucées. Parce que ta femme et toi, vous êtes désormais quoi? Un. Église de Christ, est-ce que vous entendez? Aimer sa femme en faisant quoi? En l'honorant. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous, qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Parce que les agissements du mari, lisons, retournons à Éphésiens 5, on va le lire. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas un message qui plaît à la chair, mais c'est un message. En Afrique, on ne soigne pas le palu avec des bonbons. On le salue avec des nivakines. Et la nivakine est amère dans la bouche, mais elle guérit toujours. On ne soigne pas la maladie avec n'importe quelle. On ne soigne pas l'appendicite en caressant votre appendice. On l'opère, on l'ouvre et on enlève. Et ce sont ces messages dont l'Église a besoin aujourd'hui. L'Église a vu tellement de choses, mais ça ne fonctionne pas de façon durable. Éphésiens 5, on retourne à ce passage-là, et au verset 28, nous lisons la suite, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est étrange, hein? Nous disons que nous aimons. Les gens disent qu'ils aiment leur femme. Mais Dieu dit ici, voici la manière d'aimer votre femme. Voici la manière d'aimer votre femme. Ne cherche pas à aimer les femmes à travers les films qui te mentent. Dieu dit que le chrétien doit aimer sa femme comme son propre corps. Comme son propre corps. Et si tu aimes ton mari en te soumettant, mais si le mari aime sa femme comme son propre corps, je vous pose la question. Quelqu'un qui aime sa femme comme son propre corps, où est le problème? Quel problème y aura dans la maison? Dites-moi. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, Marie, si tu n'aimes pas ta femme, comme Jésus dit, ne me dis pas que tu l'aimes. Ne dis pas, ce n'est pas les expressions chérie, je t'aime. Dieu ne parle pas de ça. Dieu ne parle pas de ces expressions qui n'ont pas réellement de sens. Tu le sais très bien. Aimer sa femme comme son propre corps, tu ne tiens pas ton propre corps en disant je t'aime. Non. Qu'est-ce que tu fais à ton corps? Quand tu l'aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu l'entretiens bien? Tu as déjà frappé ton corps? Tu as déjà pris ton poing, donné un coup à ton corps? Tu as déjà insulté ton corps? Non. Tu le laves, tu l'entretiens, tu le nourris, tu veilles sur lui. Dieu dit, celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Il s'aime lui-même. Vous savez, ce sont ces passages-là qui permettent, quand vous rentrez dans l'onction de guérison et de délivrance, tout marche simplement. Ça marche tellement simplement que vous êtes étonné de voir que les miracles, la délivrance se passe facilement. Facilement. Plein de gens pour qui vous avez prié, vous avez dit qu'il y a des démons, ce n'est pas un démon qui est là. Elle vous a dit, c'est un manque de pardon. C'est une amertume qui est cachée. C'est un refus de se réconcilier. Qui est caché dans le cœur des gens. Ils ont été blessés. Et vous avez beau crier au nom de Jésus-Christ, vous avez beau sauter, rien ne se passe, car il n'y a pas de démon. Il n'y a que la chair qui se manifeste. Il y a la chair qui se manifeste. Vous diminuez dans la salle, mais vous laissez le retour en bon état. Parfois, les techniciens, quand j'élève la voix, ils font le contraire. Et je vous dis quelque chose. Les agissements contradictoires des hommes à l'égard de leur épouse refroidissent et blessent l'amour dans le couple. Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer son mari. Écoutez bien. Et dans le naturel, souvent c'est Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. C'est très important. Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. Et l'amour de la femme pour l'homme, c'est une soumission. Et ce mot soumission veut dire simplement sous une mission qu'il doit accomplir. La femme se rend dans une mission dirigée par un homme qui l'aime. Alors la femme rapidement rentre dans la mission, accomplit la mission avec joie et paix. Soumission ne veut pas dire esclave, hein? Non. Non. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc vous comprenez là? Alors, les agissements contradictoires des hommes refroidissent l'amour dans le couple. Par exemple, tout le monde sait que les femmes aiment parler. Non, c'est normal, c'est normal. Elle est créée comme ça, même si elle est remplie du Saint-Esprit, elle doit parler. Ce n'est pas négatif. Mais maintenant, voyons ce mari qui est chrétien et qui vient à la maison, son mari veut lui parler. La femme parle à son mari, sa femme veut lui parler. La femme parle à son mari, attend qu'il donne des conseils, qu'il participe. Et à cela, au souci, il dit, les enfants ont fait ça derrière toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et la plupart des gens, des hommes deviennent muets comme les carpes. Ils ferment la bouche, ils ne parlent plus. Ou bien quand ils parlent, ils grognent. Alors, je vous pose la question. Quand une femme, matin, midi, soir, pendant une semaine, 10 jours, elle parle à son mari et en retour, elle n'entend que des grognements. Cette femme-là, vous voulez qu'elle fasse quoi? Quelque chose se passe dans son âme. Que vous le voulez ou pas, quelque chose se passe dans son âme. Quelque chose se passe dans son âme. C'est pourquoi la Bible dit de faire attention à nos paroles. Écoutez, si Adam avait simplement dit à Ève, chérie, laisse tomber. Ne mange pas le fruit, parce que Dieu m'a dit de ne pas le manger, parce que nous sommes déjà comme Dieu. Nous sommes semblables à Dieu. Mais quand il ne voulait pas avoir des problèmes, il s'est tué, Ève a mangé, et des problèmes ont commencé. Et beaucoup d'hommes se taisent, et les problèmes commencent par les femmes. Et maintenant, vous devez assumer votre responsabilité. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est pas Ève qui a péché, c'est toi qui as péché. C'est toi le mari qui devait l'aimer. Tu devais l'aimer et lui montrer le chemin. Tu as refusé, donc tu portes le péché sur toi et Ève a été simplement séduite. Et c'est le même principe encore aujourd'hui. Tu vois que ta femme t'engage dans une voie. Tu vois bien que ça va vous amener dans une impasse. Mais tu ne veux pas parler. Tu la laisses faire. Après, tu vas assumer les conséquences. L'amour protège. L'amour conseille. L'amour calme. C'est très important que nous comprenions ces simples vérités qui sont les vérités que nous devons comprendre dès le départ de notre mariage, dès le départ de notre vie de couple. Mais quand l'homme a des intérêts, il va commencer à rugir dans toute la maison. Et la femme doit entendre ce qu'il veut dire. Alors, je vous pose la question. quand une femme vit dans cette atmosphère-là, elle voit que cet homme-là ne réagit jamais quand on lui pose des questions, ne réagit jamais quand on lui pose des problèmes, il ne résout pas les problèmes. Mais quand il a des problèmes lui-même, vous le voyez là, il est agité, il court partout, il veut que tout le monde se plie, les enfants, la femme se plie à ses intérêts à lui, mais lui, il ne répond jamais. Comment voulez-vous que ces deux-là viennent à l'église? La femme et l'homme sont assis dans, à l'église. La femme, qu'est-ce qui va se passer? Son premier amour est en train d'être éteint par le manque d'amour du mari. Ils sont assis côte à côte, mais rien ne se passe. Bien-aimés frères, ils sont assis, rien ne se passe. Nous devons avoir le courage, si nous voulons repartir, nous devons aller plus que les enfants, nous devons aller au-delà. Nous devons ranimer la flamme du premier amour. C'est pourquoi Paul dit à 2 Timothée 1, verset 7, il dit à Timothée, ranime la flamme du don que Dieu t'a donné. Parce que le premier amour est un feu qui s'entretient. Le premier amour envers Dieu est un feu. Le premier amour envers votre femme ou envers votre mari, c'est un feu. Et le premier amour envers vos frères et vos sœurs, c'est un feu. Et ce feu s'entretient. Tout feu s'entretient. Un feu qui n'est pas entretenu devient de la braise et plus tard des cendres. Et c'est pourquoi, quand nous regardons aujourd'hui, pourquoi Satan a attaqué Ève? Nous ne comprenons pas cela. Pourquoi dans le jardin Satan a attaqué Ève en premier lieu? Pourquoi Satan est allé vers Ève? Et encore aujourd'hui, Dieu nous dit, tu dois honorer ta femme parce qu'elle est d'un sexe plus faible. Ce n'est pas négatif. C'est-à-dire que ses émotions, du fait qu'elle est porteuse d'enfants, donc elle a des choses en elle qui font qu'elle est plus sensible, elle est à l'intérieur. Et c'est pourquoi je dois l'entourer. Parce qu'elle ne réagit pas comme moi je réagis. Et si je ne le fais pas, alors, je veux vous dire une chose, frères et sœurs, le premier amour, quand il n'est pas entretenu, les vents froids de la vie, ça veut dire les vents froids de la vie, c'est quoi? C'est les épreuves. C'est quoi? C'est les soucis, les maladies, les incompréhensions. Ces vents froids-là vont souffler et éteindre le premier amour. Et souvent, quand je regarde les femmes, je regarde d'abord leurs yeux. Par l'amour ne se cache pas. Je vois des yeux froids. Je vois cette femme-là, ses yeux sont vides. Je cherche à voir l'étincelle d'amour dans son cœur. Ça, c'est la parole de connaissance. Je cherche à voir dans cette femme-là, elle est assise devant moi. Quand elle rentre pour que je les conseille, je cherche d'abord à saisir par le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a une étincelle de feu de premier amour encore en elle? Et je vois qu'il n'y a que de la cendre, et dans certaines, je vois que des braises, de la cendre qui est là. Donc, tant que ce premier amour n'est pas réveillé, je ne peux pas gagner cette femme-là. Elle ne pourra pas, elle a pris un chemin de séparation ou de divorce, elle a pris un chemin de suicide. Pourquoi? Parce que le feu du premier amour, il y avait le feu avant, c'est devenu de la cendre. C'est pourquoi j'aime regarder les gens dans les yeux. Parce que vous ne pouvez pas cacher ce qui est dans vos yeux. Vos yeux sont vides, ils parlent. Quand je regarde vos yeux, je sais déjà par le Saint-Esprit si vous voulez me mentir. Je sais si vous me haïssez. C'est pourquoi j'ai dit hier avant-hier, j'ai dit même si vos yeux sont rouges. Parce qu'il y a deux personnes qui étaient là qui me haïssaient littéralement. Non pas parce qu'ils ont des démons, hein. Non, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Je regarde vos yeux. Vous ne pouvez pas cacher dans vos yeux. Vos yeux, quand ils sont vides, vous avez beau sourire, vos yeux sont vides. Et c'est là que je veux pénétrer. C'est là que je veux envoyer l'amour, la lumière de Dieu. C'est là où je vais ramener. Tant que je n'arrive pas à tirer ça, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce que je vais vous dire, vous allez penser, cet homme-là, il ne connaît pas ce qu'il dit. S'il savait combien je souffrais, s'il savait combien je suis fatigué, s'il savait que la vie n'a plus de sens, vous ne pouvez pas comprendre. Par vos yeux montrent qu'il y a un vide en vous. Vos yeux montrent que là où il y avait l'amour, il n'y a que de la cendre. Et les gens disent, mais il y avait de l'amour, il y avait de le feu ici avant. Mais c'est de la cendre maintenant, madame. La cendre montre simplement qu'il y a eu un feu. Mais que ce feu n'existe plus. Dans votre couple aujourd'hui, le premier amour se réduit en cendre, ou bien c'est en train de se réduire en braise, tout doucement. Il y avait ce feu, ça a commencé à s'estomper, à s'éteindre. C'est de la braise encore, ça peut aller. Mais si vous ne faites pas attention, ça va devenir de la cendre. Et dans la cendre, il n'y a plus de vie. Et pourquoi, quand vous priez, ça ne marche pas? Par la loi de deux, la loi de l'agrément. La Bible dit ici, deux s'accordent sur la terre pour demander comment une femme qui a été du moins saccagée spirituellement, moralement, comment elle peut s'accorder à cet homme, comment elle peut s'accorder et demander une chose avec foi. Ça ne marchera pas, frère. Le couple, c'est la première église où les miracles doivent se passer. L'homme et la femme, la Bible dit un chasse mille, deux chasse 10 000. C'est une loi de Dieu. Si deux s'accordent, la loi de Dieu se trouve dans Ecclésiaste. L'un couvre l'autre. Si l'un tombe, l'autre le relève. Ça, c'est la loi de deux. Cette loi de deux est une loi puissante que Jésus a appliquée en envoyant les disciples deux à deux. Mais pourquoi cette loi-là? Satan n'aime pas la loi de deux. La loi de deux est la loi de l'union et de la complémentarité dans le couple. Satan n'aime pas ça. Il arrive à vous diviser et vous ne pourrez que chasser 1 000. Chacun de son côté, ça fait 2 000, mais pas 10 000. Et tant que vous ne serez pas d'accord, vos prières ne sont pas exaucées. Les miracles sont à la portée. L'atmosphère du miracle, c'est l'amour. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de venir prier pour mes problèmes, pour mes maladies. Les miracles se passent dans ma maison. Je manifeste les miracles dans ma vie. J'ai des problèmes, je m'assois. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Parce que le surnaturel de Dieu est en moi. L'Esprit Saint, qui est le surnaturel de Dieu, qui produit la puissance, est déjà en moi. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Cette flamme d'amour, où est-elle? Elle est devenue simplement de la cendre. Pourquoi le premier amour n'est pas entretenu? C'est pourquoi Jésus et le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, il dit, réveille le premier amour. Réveille-le. Le premier amour dans le couple, pourquoi j'insiste sur le couple? Parce que le couple, écoutez, nous sommes ici, en dehors des jeunes gens, des gens qui ne sont pas mariés, des célibataires, les gens sont en couple. Mais supposons, et ici actuellement, supposons qu'il y ait 500 couples. Et que ces 500 couples-là, l'amour de Dieu ne fonctionne pas. Mais c'est une église vaincue qui est là. On n'a que le nombre. Le nombre n'impressionne pas Dieu. Quand Dieu vous regarde, quand Satan vous regarde, il voit la division, il voit que vous êtes assis côte à côte, mais il rit à gorge déployée. Satan regarde, il ne voit pas d'entente, il ne voit pas d'amour. Ça ne l'intéresse pas. Vous ne pouvez pas le chasser. Vous n'avez aucune autorité de chasser là où il n'y a pas l'amour. Satan connaît l'amour, il a vécu dans le ciel. Il sait que le ciel l'amour est manifesté. Il ne peut pas supporter l'amour. Il ne peut pas supporter l'amour. L'amour est une des armes les plus puissantes que Dieu a données aux chrétiens pour repousser la nature satanique, la nature de haine. Pas l'onction. L'onction manifeste le ministère. L'onction manifeste la puissance de Dieu pour guérir les malades. Mais l'amour est l'arme la plus puissante, offensive, la plus puissante, qui repousse, qui remet Satan. Il ne peut pas vivre dans l'amour. Il ne connaît pas l'amour. Il hait l'amour. Alors, s'il arrive à voler l'amour de votre vie, vous êtes déjà vaincu. Vous ne l'intéressez plus, il n'a plus peur de vous. Et cet amour-là, il le vole où? Dans le foyer. Rapidement. Il le vole dans le foyer. Pourquoi? Regardons Ecclésiaste 4 et Cantique. de Cantique 4. Regardons ce passage. Comment entretenir l'amour? Cantique de Cantique, chapitre 4. Verset 1. Voici comment dans le couple, tu dois entretenir le premier amour. C'est par ta bouche. La Bible dit ici que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Mais quand tu commences à dire à ta femme, regarde, tes rides sont venues. Tu es en train de vieillir, hein? Ça, ça n'entretient pas le premier amour. Mais chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes seins sont plats maintenant. Qui les a aplatis, c'est bien toi. Dis, réponds à ton mari, qui les a aplatis, c'est bien toi. Tu n'as pas su les entretenir. Il faut avoir un langage. L'atmosphère, écoutez, vous le savez très bien, deux personnes sont en train de causer. Elles sont joyeuses, elles sont heureuses. Une troisième personne vient avec des paroles négatives et dit des paroles négatives. L'atmosphère de la maison change, oui ou non? Alors, c'est la même chose. C'est vos paroles qui entretiennent l'atmosphère entre vous. Des bonnes paroles. Même si elles marchent comme un éléphant, tu dis, mais tu es cool, hein? Tu es cool. Mais les femmes font tout pour attirer l'attention de leur mari et ils ne veulent pas. Une femme s'habille, passe devant son mari. Une fois, il est assis au salon. C'est le temps pour aller au culte. Il dit, hey, chérie, fais vite, on va t'arrêter au culte. Ensemble, la femme passe, elle a porté sa nouvelle robe. Elle passe. Le mari dit, oui, mais pas, fais vite. La femme veut que son mari dise, tu es belle. Non, il ne dit rien. Ce sauvage qui est assis ne dit rien. Il ne regarde que sa montre. Hey, fais vite là, on va aller. Fais vite, on est en retard. Hey, mais t'as pas vu ma robe? Ah oui, j'ai vu. Ok, mais on va. Et vous voulez amener cette femme à l'église. Elle est déjà frustrée. Et vous allez à l'église. On dit maintenant, le pasteur dit, alors, serrez vos femmes dans vos bras. Elle va se laisser serrer. Tu ne l'as pas serré à la maison, tu vas la serrer à l'église. Apprenez les bonnes choses à la maison. Développez l'atmosphère. L'atmosphère des miracles se passe à la maison. L'atmosphère des miracles dans le couple se passe à la maison. Remplissez-vous. Et quand vous venez à l'église, vous donnez au pasteur l'atmosphère pour que les miracles se passent. Par l'onction du pasteur est bloquée par vos mauvaises relations. Même s'il vient avec l'onction, s'il veut aller, vos manques d'amour entre vous là bloquent la puissance. Par l'onction, se manifeste là où il y a l'amour. C'est pourquoi Jésus, quand il allait quelque part, il faisait sortir tous les incrédules. Quand il voulait ressusciter les gens, il mettait tout le monde au dehors. Il amenait tout le temps ceux qui croyaient en lui, ceux qui l'aimaient. Parce qu'il savait que l'atmosphère des miracles est basée sur l'amour. Je parle du milieu chrétien, je ne parle pas du milieu païen. Le milieu païen, on peut aller avec ma foi et Dieu a de l'amour pour eux. Mais le milieu chrétien, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amour entre nous? Dans vos cellules, vous devez voir des miracles. Et vous devez venir ici les mardis, vous devez venir les dimanches. Racontez dans vos cellules les miracles que Dieu est en train de faire. Le surnaturel, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le surnaturel est normal. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les miracles qui les accompagneront. Pas de temps en temps. Le miracle, ce n'est pas seulement à l'église. Quand le pasteur a la parole de connaissance, le miracle, c'est dans votre vie de famille. C'est dans votre travail. J'étais chef d'entreprise. J'ai vu des miracles et des miracles dans l'entreprise. Dans mes études, j'ai vu des miracles et des miracles. Dans le milieu du travail, dans le milieu des études. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un homme qui est habité par le Dieu surnaturel. Mais la seule chose qui le bloque, c'est le manque d'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, la foi n'agit pas. La foi agit par quoi? L'amour. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention. Ce qui semble être un succès pour nous n'est pas un succès pour les gens. Alors, ce soir, j'ai voulu mettre l'accent sur cet élément-là parce que les lois du succès sont basées sur quelques versets que j'ai notés. 1 Pierre 3, 7, honorez sa femme. Jacques 1, 19, prompt à écouter sa femme. Colossiens 4, 6, assaisonner la vie de sa femme par des paroles douces, des paroles d'amour. 1 Timothée 5, 8, prendre soin des siens, car la Bible dit que celui qui ne prend pas de soins est pire qu'un païen. Partagez vos plans avec votre épouse et votre époux, dites-lui ce qu'il y a. Et quand vous voyez ça, ça va décoder le mystère du mariage. Car Éphésiens 5 nous dit, 32, que le mariage est un mystère. Et ce mystère-là se manifeste par trois lois, et je vais m'arrêter là pour prier avec vous ce soir, pour prier pour les situations, pour prier pour les problèmes, pour prier pour les malades. Première loi, dans le mariage, si je veux voir le premier amour se manifester, je dois toujours considérer la loi de la différence. C'est une loi dans le mariage. La loi de la différence entre l'homme et la femme. Ça, c'est important. Je dois savoir que cette femme qui est à côté de moi, qui est dans ma maison là, est une femme. Est-ce que vous comprenez? Ah bon? Comprenez pas? C'est de toi, tu es homme, elle est femme, elle restera toujours. Est-ce que tu peux la changer? Alors, pourquoi tu veux la changer à être homme? Voici le problème des hommes. La femme est une femme, l'homme est un homme. Ça, c'est la loi de la différence. Ça, ça maintient toujours le premier amour. Quand je regarde, quand tu regardes ta femme, tu dois la regarder avec la loi de la différence. Elle est une femme. Ce n'est pas négatif, hein? Et la femme doit regarder son mari. C'est un homme que j'ai devant moi. Alors, si je sais que c'est un homme qui est devant moi, et mon mari sait que c'est une femme qui est devant moi, alors nous allons respecter la loi de la différence. Dieu a créé la femme femme, Dieu a créé l'homme l'homme. Mais si je vais transformer ma femme en homme, ce sera difficile. Si je vais transformer ma femme comme un second Mamadou, ce sera difficile. Mais la plupart des hommes tombent dans ce piège-là. Ils ne savent pas qu'ils ont marié une femme. Ils ne savent pas qu'ils ont marié une femme. Et cette femme est différente d'eux. Et ils sont là en train de la changer. Ils veulent lui imposer leurs lois, leurs principes. Ils veulent... Et à la fin, cette femme-là est déstructurée. Mentalement, moralement, elle est déstructurée. Ils n'ont plus une femme. Ils ont quelque chose de bizarre dans leurs mains. Physiquement, elle est différente de moi. Psychologiquement, elle est différente de moi. Mentalement, elle est différente de moi. Elle n'a pas la même sensibilité que l'homme. Donc, l'homme doit tenir compte de cela. L'homme doit tenir compte de cela. Et quand vous tenez compte de cela, ça met votre femme. Elle n'a pas le même goût. Elle n'a pas le même goût que toi. Elle n'a pas la même vision que toi. Donc, s'asseoir, la respecter dans sa différence, la respecter dans sa différence, va permettre à l'amour de grandir en elle et de grandir en toi. Ne la compare pas surtout à ta maman. Beaucoup d'hommes, moi, ma mère était comme ça. Il fallait te marier à ta mère. Mais oui, c'est normal. Tu ne t'es pas marié à ta maman. Ne comparez pas votre femme et votre maman. Jamais. C'est deux amours totalement... Vous êtes à l'équidistance. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. L'homme doit quitter son père et sa mère. C'est la Bible qui le dit. Ne dites pas autre chose. Je refuse. Aucune culture ne peut mettre la Bible de côté. L'homme doit quitter son père et sa mère, mentalement, psychiquement, physiquement et tout. La loi d'amour vous montre déjà, la loi même physique vous montre, quand vous naissez, on coupe le cordon ombilical. Vous avez déjà vu une maman qui se promène avec un cordon, avec un enfant derrière? S'il y avait ça, il y aurait tellement d'embouteillages dans ce monde-là. Donc, si vous devez couper le cordon ombilical, ça veut dire que tout, ça veut dire que si vous vous mariez, vous devez couper une seconde fois le cordon ombilical. Et c'est vous qui devez le couper. Il dit, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule. Ça préserve l'amour familial. Ça préserve l'amour du foyer. Si ta maman aime les rideaux bleus et que vous vous mariez, ta femme dit, ah, mais chérie, on va mettre des rideaux verts, pâles. Tu dis, non, attends, on va voir. Et tu cours chez maman. Tu dis, qu'est-ce qu'on doit mettre? Elle dit rideau bleu. Tu viens avec ça, tu es en train de détruire ta famille. Tu es en train de détruire ta famille. Écoutez, il y a des choses simples que nous sommes tellement doctrinaux, nous aimons l'endoctrinement, nous aimons les grandes choses, alors que les choses simples, ce sont les petits cailloux qui font tomber les gens. Ce sont les petits microbes qui détruisent l'homme. Ce sont ces petites choses-là, dont on ne fait pas attention, qui empoisonnent la vie des chrétiens, des couples. Et ça ne va pas. Vous voulez des grandes choses, vous voulez l'onction, vous voulez la puissance. Mais et ces petits vers-là qui sont en train de vous ronger, mettez-les au dehors d'abord. Mettez-les hors de votre vie. La loi de la différence dans le couple est très importante. La loi de la différence dans l'église locale est importante. Mon frère n'est pas moi. Le frère dans l'église locale qui est assis là, il n'est pas comme moi. Je dois le respecter dans sa différence. Dieu nous a créés différents. Donc, nous avons la communion. Mais je dois le respecter. Je ne dois pas lui imposer mes points de vue. Je dois laisser le Saint-Esprit le convaincre. La loi de la différence dans l'église locale. Mais si nous voulons caporaliser tout le monde, si nous voulons que tout le monde soit comme nous, nous serons frustrés et nous serons vexés, nous aurons la haine, parce que nous allons croire que les gens ne nous aiment pas, que les gens nous rejettent. Non. La loi de la différence, bien-aimés frères et sœurs, accepter cela. Et la deuxième loi, c'est la loi de la complémentarité de l'union. Cela, nous l'avons déjà vu, la loi de la complémentarité de l'union. Alors, quand nous comprenons ces lois-là, tant au niveau de l'Église que de Dieu, que de nos couples, alors, frères, je vous assure, tant de blessures seront guéries et nous allons fonctionner dans les foyers, dans les couples régénérés. Le premier amour sera manifesté encore et le Saint-Esprit sera à l'aise pour faire des guérisons, des miracles, pour faire des signes et des prodiges. Et ces choses-là vont nous accompagner. On va prier ce soir. On va prier. Seigneur, nous te prions, te remercions ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ces hommes et ces femmes. Merci pour ces couples merveilleux. Merci pour ces jeunes gens. Merci Seigneur pour ce premier amour qui a souvent été mis de côté et laissant les œuvres se manifester. Mais Seigneur, tu vois ces cœurs ce soir-là, Père de grâce et d'amour. Maintenant, nous allons prier d'abord pour les couples, ceux qui sont venus en couple, même si votre mari n'est pas venu, si votre femme n'est pas venue, ce n'est pas un problème. Nous allons prier pour les couples d'abord. Tu as réalisé ce soir-là que le premier amour est totalement refroidi. Ma sœur, la flamme du premier amour qui brillait dans vos yeux quand vous avez épousé cet homme est devenue la cendre, totalement de la cendre. Et chaque jour, vous demandez, mais Seigneur, pourquoi? Pourtant, cet homme-là, il était si bien quand nous avons commencé le mariage. Mais pourquoi aujourd'hui a-t-il changé? Il n'a pas changé. Ce soir, alors, si tu veux que ton foyer, ton couple puisse repartir et tu vois que ton cœur a été blessé, rempli d'amertume envers cet homme ou envers cette femme-là, ce soir-là, sois courageux, sois courageuse. Car lorsque nous allons prier, cette prière, tu vas la faire d'abord toi-même. Si tu es avec ton mari et s'il y a ces choses-là dans ton cœur, dis-lui, chérie, dis-lui, mon mari, ces choses-là sont à moi. Mais je veux que le premier amour soit ranimé encore. Tenez-vous la main simplement là où vous êtes, sans lever la tête. Discrètement, tenez-vous la main. C'est un signe d'accord entre vous. Vous murmurez avec moi simplement cette prière. Seigneur Jésus, le premier amour que tu as répandu dans mon cœur s'est éteint à cause des épreuves familiales, de l'incompréhension, des difficultés entre mon mari et moi. Et cet amour s'est tellement éteint qu'aujourd'hui il est comme de la cendre. Mais Seigneur, tu es capable toi-même de sortir de cette cendre-là une vie nouvelle, un amour nouveau. Je te livre mon cœur ce soir. Seigneur, fais une opération chirurgicale. Tout ce qui a paralysé mon cœur, l'amertume, l'angoisse, même la haine, ce soir, que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour, m'aide à mettre cela au dehors. Je veux être une femme ou un homme renouvelé ce soir. Je veux ranimer la flamme du premier amour dans mon cœur. Seigneur, je veux t'aimer comme au premier jour, quand j'étais zélé pour toi, quand j'aimais passer du temps dans ta présence. J'aimais ta parole, mais aujourd'hui, ce premier amour s'est refroidi. À tel point que passer même quelques minutes avec toi est difficile pour moi. Mais ce soir, je reviens à toi, Seigneur. Ô Dieu, fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce. Pardonne ce cœur qui s'est refroidi, qui s'est endurci même à tel point qu'il n'arrive plus à pardonner aux autres, qu'il n'arrive plus à se réconcilier avec les autres. Mais voici ce soir, je m'ouvre à toi, que ton Saint-Esprit brise tout ce qui a été endurci en moi et que le sang de Christ me purifie de tous ces fondements, de tous ces autels que j'ai élevés dans mon cœur. Ce soir, je reçois non seulement ton pardon, mais je reçois aussi la guérison. Maintenant, pose ta main sur ton cœur, je vais prier. Excellent Père de grâce, je viens contre ces autels qui ont été élevés. Je viens contre ces murailles qui sont élevées dans les cœurs. Je viens contre tous ces esprits qui ont pris contrôle de ces cœurs pour les amener dans l'anéantissement. Je viens contre vous ce soir dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Et je réprime votre présence. Je commande esprit de haine, esprit d'amertume, esprit de suicide, esprit de dépression. Je te commande ce soir, dans le nom de Christ Jésus, je t'ordonne maintenant, esprit qui tourmente, je te lis ce soir dans le nom de Christ Jésus. Je commande que tu lâches prise maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Libère ses cœurs maintenant, dans le nom de Christ Jésus, car j'asperce ses cœurs par le sang de Christ Jésus maintenant. Ce sang brise tous les liens. Ces liens sont brisés maintenant au nom de Christ Jésus. Soyez délivrés de cet esprit maintenant qui vous paralyse spirituellement et moralement. Père, merci pour l'amour que tu ranimes par ton Saint-Esprit dans leur cœur. Recevez le renouvellement de l'amour, du premier amour dans votre cœur. Recevez cet amour-là, commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Le renouvellement de ton foyer, le renouvellement de ta relation avec Dieu, le renouvellement de ta relation avec ton mari ou tes parents. Toi, tu n'arrives pas à aimer tes parents parce que tu as vécu dans un temps difficile. Jeune fille, tu n'as jamais été touchée par ta maman. Depuis que tu es née, ta maman t'a jamais tenu dans ses bras et tu n'as jamais connu l'amour maternel. Et à cause de cela, toi-même, tu es en vue de te marier. Tu ne sais pas comment aimer tes enfants. Alors ce soir-là, là où tu es maintenant, n'ayant pas connu cet amour maternel, lève-toi et tiens-toi debout, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi, là où tu es maintenant, tu te tiens debout, et parce que tu n'as pas connu cet amour-là. Ta maman t'a jamais tenu tiré sur ses genoux, t'a jamais touché, et tu as grandi dans cette atmosphère lointaine, dans la solitude. Lève-toi maintenant, je vais prier avec toi. Et que tu sois, que tu aies 50 ans, que tu aies 60 ans, tu n'as pas connu cela, et ça gêne ton foyer maintenant, je vais prier. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier maintenant. Excellent Père de grâce, je viens contre cet esprit qui paralyse ces hommes et ces femmes, qui ne savent pas comment aimer leurs prochains, qui ne savent pas comment aimer leurs enfants, car ils n'ont jamais vécu l'amour maternel. Ils ont grandi sans cet amour-là. Ils n'ont jamais vécu cet amour-là. Et cela les a amenés à ce que leur cœur soit dans l'amertume, soit dans le rejet. Je réprime ce soir, dans le nom de Christ Jésus, je réprime cet esprit qui paralyse ces hommes et ces femmes et qui les empêche de manifester l'amour et qui fait que leur âme a tenu prisonnier leur esprit dans lequel tu as déversé ton amour. Nous réprimons cela au nom de Christ Jésus. Que vous soyez maintenant, vous nous suivez sur Internet, si cela vous concerne. Et cela aussi, la puissance de Dieu passe à travers cet ordinateur maintenant, à travers cet Internet et vous touche dans votre maison et vous libère totalement. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance ce soir. Merci Père, parce que tu répands cet amour dans leur cœur au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, toi qui vis dans le rejet particulier, tu as été rejeté dès ta naissance. Tu as été rejeté parce que tes parents attendaient un garçon et tu es né une fille. Tes parents attendaient une fille, tu es né un garçon. À cause de cette naissance, tes parents, tu as senti le rejet. Et depuis ce temps, tu ne sais pas comment aimer quelqu'un parce que tu te sens rejeté. Oh, tiens-toi debout toi aussi. Nous allons prier pour toi maintenant. Et vous qui êtes maintenant en connexion avec nous, vous qui êtes en relation avec nous, si vous êtes dans ce cas, vous pouvez poser votre main dans votre maison, vos mains sur vos cœurs. Tu n'as jamais... Tes parents attendaient, ils te l'ont dit, ils te l'ont exprimé. Nous, on attendait une fille et tu es venu comme un garçon. Et dans ton enfant, ils t'ont maltraité comme... Ils t'ont gardé comme une fille. Ils t'ont habillé parfois comme une fille. Et ils attendaient une fille et tu es venu en tant que garçon. À cause de cela, tu as souffert. Pour ta main sur ton cœur, maintenant, nous allons prier. Père Saint, excellent Père de grâce, nous venons contre cet esprit de rejet. Esprit de rejet, toi qui a tenu lié ces hommes et ces femmes. Nous venons contre toi maintenant dans le nom de Christ Jésus. Nous exprimons dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Nous commandons ce soir, esprit de rejet. Nous réprimons tous les liens de rejet qui ont enveloppé ces cœurs et qui n'arrivent pas à manifester l'amour et qui rejettent les autres. Maintenant, nous réprimons cela au nom de Christ Jésus. Nous commandons dans le nom de Christ Jésus que ces esprits-là libèrent totalement ces hommes et ces femmes. Père, nous te bénissons, nous te louons ce soir-là. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Recevez cette délivrance ce soir, que votre cœur soit libéré totalement dans le nom de Christ Jésus. Vous êtes ici et chaque nuit, vous êtes oppressé par un esprit qui vous oppresse. Quand vous réveillez en sursaut, vous transpirez et vous n'arrivez plus à vous endormir. Vous êtes oppressé par des esprits et vos nuits sont parsemées de choses terribles, de cauchemars. Des choses que vous voyez, des morts qui vous poursuivent. Vos nuits sont parsemées par des choses, des animaux terribles, des choses qui vous poursuivent. Et régulièrement, vous semblez monter sur une montagne que vous n'atteignez jamais le sommet. Vous courez, vous ne finissez jamais votre course. Et vous êtes oppressé par ces esprits-là. Nous allons prier ce soir maintenant. Levez votre main simplement. Esprit ce soir, esprit des ténèbres, vous qui tenez liés ces hommes et ces femmes, qui oppressez ces hommes et ces femmes, nous venons contre vous ce soir au nom de Christ Jésus. Nous réprimons ce soir frères, participons à la prière dans l'esprit de prière. Nous réprimons ces esprits ce soir, ces esprits qui oppressent ces hommes et ces femmes-là, qui les oppressent dans leur nuit, qui les empêchent de dormir correctement, qui les réveillent en sursaut et qui les oppressent, qui leur font peur. Nous vous réprimons ce soir dans le nom de Christ Jésus et nous commandons que ces esprits lâchent, libèrent maintenant, libèrent votre vie. Et qu'au nom de Christ Jésus, nous aspergeons le sang de Christ Jésus sur vous. Recevez la grâce ce soir. Et que vos nuits ne soient plus remplies de cauchemars. Et que vous soyez libérés totalement dans le nom de Christ Jésus. Nous allons prier pour les malades pour terminer. Si vous êtes malade, vous êtes venu avec un problème. Que cela soit un cancer. Que cela soit une maladie dite incurable. Une maladie héréditaire. Vous posez votre main sur votre corps. La Bible dit, Jésus a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons reçu la guérison. Recevez simplement la guérison. Vous qui êtes maintenant en connexion avec nous, vous aussi, nous vous demandons de mettre vos mains sur votre corps simplement. Et vous recevez la guérison ce soir. La guérison est facile lorsque nous sommes en connexion l'un avec l'autre. Lorsque nous sommes en relation, sachant que l'amour de Dieu nous aime, l'amour de Dieu est pour nous, alors croyez cela. Père, je prie maintenant pour ceux qui sont souffrant dans leur corps. Je prends autorité sur cet esprit de tumeur, tumeur cancéreuse dans les seins, dans la prostate. Je réprime cette tumeur dans l'utérus. Je commande à cette tumeur qui ronge au niveau du foie, du pancréas. Je commande à ce cancer maintenant pour cette personne qui nous regarde. Vous êtes assis, vous êtes avec trois personnes. Vous êtes un homme d'une cinquantaine d'années. Et les médecins ont découvert maintenant que vous avez un cancer de prostate. Posez votre main sur votre bas-ventre, là, vous qui nous suivez. Oui, je vois votre maison, il y a comme un canapé et orange, et qui est derrière vous. Regardez ça très bien, et posez votre main sur votre bas-ventre. Je réprime au nom de Christ Jésus. Je commande maintenant à ce cancer de la prostate. Je réprime qui tourmente cet homme-là. Je commande, cancer de la prostate, je te réprime ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, je commande que ce cancer soit détruit maintenant par la puissance du Saint-Esprit et recevez la délivrance par les meurtrissures de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, vous êtes là, vous êtes un homme de plus d'une cinquantaine d'années aussi et vous avez un problème d'impuissance parce que vous avez un problème particulier qu'on appelle diabète. J'ai vu cela et à cause de cela, cela dérange vos relations avec votre femme. Vous êtes là ce soir. Posez votre main sur votre bas-ventre. Votre impuissance provient du diabète. Posez votre main sur votre bas-ventre. Dans la discrétion, nous allons prier pour vous. Excellent Père, je prie pour cet homme. Tu vois que cela crée des relations, des tensions avec son épouse à cause de cette impuissance sexuelle qui provient de ce diabète-là. Père, je réprime d'abord la source qui est le diabète. Je réprime cela. Je commande au pancréas de fonctionner. Je commande maintenant que les reins fonctionnent et que tout le taux de glycémie puisse totalement être régulé au nom de Christ Jésus. Et je commande à cette impuissance qui se manifeste sexuellement. Je réprime cela ce soir et je commande ce soir que cette impuissance parte. Mon frère, reçois l'attouchement de la main de Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit touche et que cette nuit soit une nuit excellente pour toi au nom de Christ Jésus. Je commande ce soir et que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois béni et sois loué, Père. Que ta grâce et ton amour soient sur nous. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.